Extramuros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Coucou, bienvenue pour ce cinquième jour de festival Peuple des Marocs à Douarnenez. En direct de la place et en podcast sur Radio Transistor et Radio U. Cet après-midi, ce midi même en direct, nous avons au plateau June.
Salut tout le monde.
Tu, Inès.
Salut tout le monde.
Asma. Et comment vous allez?
Très bien.
Ça va, tranquille.
Super. Est-ce que, qui veut commencer par se présenter? Inès.
Ok, c'est moi. Donc moi c'est Inès, je suis née à Salé et j'habite à Rabat depuis 4 ans. Je suis une artiste visuelle, photographe et poète. Je travaille sur l'autoportrait et sur le corps comme un travail d'introspection et aussi sur la santé mentale. Donc l'ensemble de mon travail est axé sur ça, sur le genre aussi et sur les questions LGBTQ+.
Super. Et ton expo est affichée au Port Musée, c'est ça?
Ici.
Ouais.
Oui, j'ai deux expositions ici au festival. Il y a une exposition intitulée Enfance revisitée qui parle de ma propre expérience sur le football féminin. Et une deuxième exposition qui s'appelle What About Us sur la santé mentale des personnes queer au Maroc.
Super. Et qui est donc visible jusqu'à la fin du festival.
Exactement, jusqu'au samedi matin.
Au hall.
Au hall.
Moi, Asma. Je m'appelle Asma. Je suis interprète dans le spectacle vivant. J'habite en France depuis 9 ans. Et j'ai aussi écrit et mis en scène mon premier projet perso. Mon travail, il est un peu inspiré de ma vie, de mes engagements d'ici, de là-bas. Et voilà.
Et on peut dire que tu es déjà bien fatiguée parce que tu as déjà fait pas mal de plateaux.
Oui, on vient de sortir d'une table, on peut appeler ça table ronde, pas vraiment table, mais une discussion de 2 heures avec les camarades.
Ouais, ça enchaîne.
Ça enchaîne, c'est le festival, c'est chaud.
Et June?
Et c'était son anniversaire hier en plus.
Ah oui.
Joyeux anniversaire à ce matin.
Ouais. Joyeux anniversaire.
Trop.
Moi c'est June et j'habite à Douarnenez, je suis franco-tunisien et je suis bénévole dans la commission LGBTQIA+ du Festival de cinéma, donc qui a préparé la programmation en couleur kaki dans la grille là. Et par ailleurs j'anime des formations d'autodéfense féministe pour enfants, ados, femmes et personnes LGBTQIA+.
Super. Alors moi j'avais envie de faire un plateau spécialement avec des personnes du Maroc possiblement LGBTQIA+, parce que je trouve que dans ce festival, on a envie de donner la place, en tout cas, au peuple des Marocs. Et voilà pourquoi nous voilà rassemblés un peu à la dernière minute autour de cette table. Et peut-être, moi, j'avais envie de parler de collectif, parce qu'hier, vous en avez pas mal parlé. Et on n'est pas trop rentré dans le sujet. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une importance à être dans des collectifs pour créer des communautés. Est-ce que vous voulez parler de vos collectifs?
Moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Nassawiyat, qui veut dire féministe, mais d'une manière plutôt intersectionnelle. On travaille beaucoup sur le volet activisme, recherche, renforcement de capacités et d'autres choses. Et c'est justement pour nous et pour la communauté. Il y a aussi plusieurs collectifs au Maroc qui se font créer, en tout cas à travers ces 5-7 dernières années. Et il y a quand même, ce que je trouve intéressant, c'est que chaque collectif, il travaille sur quelque chose. Il y a un collectif qui travaille sur l'autodéfense, un autre qui travaille sur l'archive, un autre qui travaille sur la recherche. Et du coup, il y a une certaine diversité. Et en même temps, ça englobe l'ensemble des besoins sur lesquels on a envie de travailler et d'accéder. Mais ça reste quand même... ça reste dans le black. On n'a pas le droit d'exister au Maroc en tant que collectif, en tant qu'association et en tant qu'individu. C'est du cas par cas. Donc, c'est un peu ça.
Et est-ce que c'est... Effectivement, ça donne plus de facilité d'être dans un collectif pour moins s'identifier personnellement et avoir moins de risques?
Oui, mais c'est surtout qu'on n'a pas le choix parce que même pour créer une association... Pardon, c'est moi? Okay. Même pour créer une association féministe, c'est une vraie galère. Du coup, c'est vraiment très difficile. Donc, créer une association LGBT, c'est... Jusque-là, c'est vraiment impossible. Donc, le collectif, c'est juste une forme. Comme je ne suis pas seule et on est 2, 3 ou 7, là, on se dit, voilà, on est un collectif. Mais bien sûr, on ne se dit pas ça seulement pour le dire. On fait un travail, on a une stratégie, on a une vision de ce qu'on veut faire et ce qu'on voudrait faire.
Et ça permet de sortir de l'isolement. J'imagine que ça donne aussi beaucoup de force. Et...
Oui. Je pense que l'isolement, c'est surtout les personnes qui vivent dans les villes qui ne sont pas le centre. Donc, je me sens quand même privilégiée d'habiter à Rabat, qui est la capitale. Et je pense peut-être d'autres personnes partagent le même avis que moi, qui habitent à Gaza, à Marrakech, un peu moins, mais quand même Agadir, Tanger. Ça reste quand même des grandes villes. Mais les autres villes, je pense peut-être il y a une sorte d'isolement parce que justement. C'est le centre, il y a un peu plus de... Genre, il y a un petit peu moins de risques et voilà, c'est la capitale, donc on connaît un peu... c'est pas la même chose qu'une personne qui habite au sud ou qui habite au nord, dans une petite ville où c'est déjà difficile... d'être en fait et
d'exister en tant que...
et d'avoir son identité et son expression de genre de manière comment la personne elle-même elle le ressent. Donc c'est vraiment difficile. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est surtout entre amis, justement on finit par devenir amis justement, ou bien collègues. Il y a quand même un mix par rapport à ça, parce qu'on a besoin d'une certaine confiance, d'une certaine clarté. Et des fois, ça commence par l'amitié, puisqu'on a déjà cette base. Sinon, c'est à travers des nouvelles personnes, et avec le temps, on essaye de, voilà, d'être solidaires, de travailler ensemble. Donc, quand je suis à Rabat, je sens que j'ai une communauté. Mais ça, c'est vraiment moi, une citoyenne qui habite au Maroc, qui habite plutôt à Rabat. Donc, je ne pense pas que d'autres personnes qui habitent, je ne sais pas, à Tétouan, qui est une ville à côté de une heure de Tanger, ou à Tiznit, à côté de Agadir, qu'ils ressentent la même chose. Donc, voilà.
Asma, tu veux parler de collectif ?
Moi, personnellement, je suis dans aucun collectif. Ça fait 9 ans que je suis partie du Maroc et je n'ai pas remis les pieds. Du coup, je ne sais pas trop ce qui se passe réellement. Mais quand j'étais au Maroc, j'ai déjà travaillé avec le collectif Aswat. C'est un des premiers collectifs créés au Maroc avec une identité queer. Je écrivais avec la revue Aswat, c'est une revue LGBT arabophone. Et j'ai dû participer à 2-3 événements, mais très vite fait.
Et c'est encore une revue qui existe, Aswat?
Malheureusement, je crois qu'elle n'est pas à jour, mais on peut encore lire les anciens articles. C'est encore accessible sur Internet.
Oui, Julie.
Moi, je peux vous parler de la réflexion collective qu'on a avec la commission LGBTQIA+ du festival. On est environ une dizaine de bénévoles qui, pendant toute l'année, regardons quel film on pourrait montrer, quelle table ronde on pourrait organiser, quelle personne on pourrait inviter. L'objectif de la commission, c'est vraiment de trouver des récits, des histoires qui donnent de la force aux personnes concernées. On n'est que des personnes LGBTQIA+ dans la commission. Mais on a aussi envie de montrer la diversité de nos parcours et de ce qu'on traverse. Et aussi de relayer les luttes, notamment des collectifs des peuples invités. Donc par exemple, quand le thème peuple invité du Maroc a été annoncé en octobre, bah là on s'est dit, bah ok, quel collectif on va pouvoir inviter au Maroc, avec qui on va pouvoir transférer l'appel à film pour s'assurer, enfin quelle voix on a envie de faire entendre en fait pendant la voix du festival, pendant le festival. Et la chance qu'on a eue, c'est que cette année, pour la première fois, on a des personnes marocaines basées au Maroc qui ont rejoint la commission. et qui du coup on fait les réunions avec nous, on fait circuler l'appel à films, on regardait des films avec nous, on proposait des liens de films qu'on n'aurait vraiment jamais trouvé sur internet. C'était des choses qui circulaient plutôt dans les milieux militants LGBTQIA+. Du coup il y avait des enjeux aussi évidemment de sécurité et de comment on pouvait relayer les lois, les voix et les messages, mais d'une manière qui les mette pas en difficulté ou qui leur crée pas des problèmes après quand ils ou elles rentrent. Et puis ça fait aussi le fait d'être en collectif pour cette réflexion là, ça fait aussi qu'on parfois on n'est pas d'accord, on se prend la tête. Il y a machin qui a trop adoré ce film là, l'autre qui trouve que y a ce plan il est bizarre, voire même qu'il peut y avoir un regard transphobe. Ouais voilà, en fait du coup on un vrai collectif. Ouais. Et du coup c'est pour ça que c'est important que dans la commission on soit aussi des personnes différentes. En termes d'orientation, identité de genre, orientation sexuelle, mais aussi de classes différentes, plus ou moins proches du milieu du cinéma. Voilà.
Mais ouais, et la sécurité, c'est quelque chose qui revient souvent et que je pense en Occident, on a du mal à vraiment saisir tous les enjeux. Et que, en tout cas, j'ai l'impression que ça reste quelque chose d'assez flou pour les personnes qui habitent en Europe, quoi.
Bah, j'ai l'impression que comme tout privilège, des fois, on a du mal à le voir.
Bah oui.
Mais peut-être que vous voulez rebondir. Enfin, en tout cas, du point de vue de la Bretagne, moi, je me rappelle la première discussion dans le bureau du festival où quelqu'un a dit « Ah, mais c'est possible que les personnes refusent de s'exposer pendant le festival pour différentes raisons et il faut qu'on respecte ça et qu'on fasse attention. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et que ça se posait... Enfin, c'est la 48e édition, mais que ça se posait quand même vraiment différemment par rapport au Maroc, notamment sur certains sujets. Et du coup, il y avait des bénévoles qui tombaient un peu des nues. Je me rappelle qu'avec même l'équipe salariée, on était là en mode « Du coup, on fait quoi en termes de protocole et tout ?» Et du coup, il y avait ce truc de « D'abord, on va aller rencontrer les personnes, voir comment elles s'organisent déjà, qu'est-ce qui fait que ça peut marcher. »
Et qu'est-ce qui les sécurise de
ouais.
Quoi...
Et pas à croire non plus que... Enfin, je pense que c'est aussi rester à sa juste place et pas partir en mode sauveur blanc. C'est notre rôle d'aller exposer toutes ces personnes et toutes leurs luttes et tout ça, parce qu'en fait, l'impact qu'on a, il est quand même assez limité et les conséquences qu'elles peuvent avoir, elles peuvent être assez grandes. Donc, ce calcul coût et risque, il faut qu'on respecte de la place des personnes qui sont directement concernées, évidemment.
Ok. Et aussi, hier, vous avez pas mal parlé de. En Occident, il y avait ce truc de s'afficher avec des identités. Et moi, ça, je trouvais ça assez intéressant. J'aurais aussi envie de creuser un peu ce sujet, parce que c'est vrai que dans tous les milieux, mais dans le milieu queer notamment, il y a quand même un truc où il y a beaucoup d'affichage, où on se sent un peu obligé de s'exposer physiquement, politiquement, sur des avis, avoir toujours et rentrer beaucoup dans des cases, quoi. Je sais pas si Asma, tu veux parler de ça. Je trouvais que hier, tu avais l'occasion de pouvoir en parler et qu'on n'avait pas trop tiré ce fil.
C'était avant-hier, je crois, parce qu'hier, j'ai pas pris la parole dans la discussion à 18h. Oui, en fait, je sais pas quoi dire. Moi, je me rappellerai toujours de la première fois où je suis venue en France et j'ai débarqué dans un événement LGBT queer à Toulouse, à côté de Toulouse. Je vais pas préciser la structure. Mais en tout cas, il y avait 250 personnes queer et 90 personnes de ces personnes, ils sont occidentaux. Et c'était un choc culturel pour moi parce que moi, je viens du Maroc, je viens d'une famille conservatrice, je viens d'une société où on se cache pour exister, où on fait des sacrifices par rapport à plein de choses. Et là, d'un coup, je me retrouve. Là, d'un coup, je me trouve dans une société où on se cache pas, où on est tatoué, on a des cheveux colorés, on est habillé d'une manière extravertie. Et du coup, oui, c'était un choc culturel pour moi.
Mais j'ai trouvé ça aussi intéressant lundi dans la discussion quand vous avez parlé de l'injonction coming out à la visibilité, comme si un peu il y avait un truc de être queer, c'est être justement très visiblement queer, et que pourquoi ça marche pas dans un autre contexte, que ça pouvait même parfois venir dans un truc un peu des États-Unis ou quoi, et aussi que se mettre des étiquettes aussi ça limite et que ça marche pas, et que c'est aussi en soi un truc très occidental voire capitaliste libéral. Et je sais pas si c'est un truc qui vous avez envie.
Les corps queer existent dans nos pays depuis toujours. Malgré nous, on a une apparence queer, un peu, comment on appelle ça, sans genre, je sais pas comment on appelle ça, gender, oui, bah, bref, j'ai pas le terme. Mais si c'est des existences qui ont toujours été là et qu'on fait avec parce qu'on peut pas faire autrement. J'imagine que pour les personnes trans, c'est encore plus compliqué parce que voilà, mais c'est sûr que oui, on n'a pas le coming out, c'est pas une question. Et on sait qu'on n'est pas encore à l'abri, du coup, on ne va pas dans cette direction-là, on est plus dans la communauté, dans comment on peut survivre et malheureusement des fois partir, comme dans mon cas. Il y a beaucoup de queer marocains qui veulent partir, beaucoup qui sont partis, qui vivent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Brésil, même, j'ai entendu. Et voilà, il y en a qui choisissent de rester, choisir de partir pour vivre entièrement, peut-être ou pas, je sais pas.
Oui, je pense que la question de visibilité est une question très difficile parce que des fois on n'a pas envie forcément d'être visible, c'est juste, tu es juste dans la rue et tu portes ce que tu portes et il y a les gens qui peuvent t'identifier en tant que personne queer ou en tant que personne trans ou autre juste parce que tu ne réponds pas aux normes sociales. Donc c'est par rapport à ça et pour tout ce qui est coming out, je pense que la majorité des personnes le font avec eux et elles-mêmes ou avec leurs amis. On n'est pas arrivé à là pour penser qu'un jour on va faire son coming out. La majorité des parents n'acceptent ou n'accepteront pas ça, la société non plus, donc c'est vraiment difficile. C'est juste, je pense, sur les réseaux sociaux, il y a quand même eu, pas maintenant, pas cette année en tout cas, depuis la Gen Z, mais avant, les gens ont commencé un peu à s'exprimer, à parler. Et moi-même, je pense que j'ai été très outée par moi-même. J'avais fait une interview vidéo en 2020 où je parlais de mon orientation sexuelle. Et ça a fait beaucoup de buzz. Mais à l'époque, je pense que ça va, j'ai pas été beaucoup insultée ou quelque chose comme ça. Et ces 4-3 dernières années, ce qui se passe aux réseaux sociaux, en même temps, les gens en parlent plus et la Gen Z parle plus. Mais en même temps, il y a plus de haine, il y a plus de vidéos qui se font. Et tu deviens un joke, tu deviens une blague. Peut prendre quelques secondes d'une interview ou de ton image, ou il y a même des youtubeurs qui ont fait toute une vidéo de 10 minutes pour cracher leur transphobie. Et du coup, de manière personnelle, j'ai commencé à. Genre, je ne fais plus, en tout cas pas à tête affichée, d'interviews, je fais moins d'interviews. Là, c'est cool parce que c'est ma voix, mais quand même, je reste identifiable. Mais c'est juste que je ne peux pas revenir en arrière. Les gens, ils ont eu l'image que je suis une personne queer et ça reste avec moi. À moins que je sorte demain et que je dis que je suis une personne hétéro. mais c'est ça. Et du coup, mais je ne ressens pas une certaine pression, en tout cas pas avec moi-même. Donc, j'essaye quand même d'apprendre à dire non quand je veux pas et ne pas toujours, à chaque fois qu'il y a une invitation, je dis oui. Donc là, aujourd'hui, je pense que je me sens à l'aise de parler, mais peut-être dans 3 mois, j'aurai pas envie. Mais pour les autres personnes, une fois, il y a leur vidéo, il y a leur image, ou même dans les quartiers, ou dans les rues, là où ils habitent, une fois, ils sont... On sait que cette personne est queer, il est transgenre ou autre. Ça y est, la personne, elle est exposée et elle a toute forme de haine. C'est juste que des fois, et de violence, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le terrain, sur place. Donc ça reste un peu difficile. J'ai un peu parlé sur les réseaux sociaux parce que ça devient de plus en plus violent. Et plus les gens... Par exemple, je me rappelle à une époque, les gens ne savaient pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Et même les enfants, les jouets des enfants, c'est les couleurs en arc-en-ciel. Et dernièrement, ces dernières années, il y a même des parents qui refusent d'acheter à leurs enfants parce que une fois, il y a eu trop de visibilité sur les réseaux sociaux. D'un coup, il suffit que tu portes des chaussettes en couleur ou un t-shirt, des fois qui n'est même pas, qui a d'autres couleurs, pas celle de l'arc-en-ciel, qu'on te voit comme une personne gay ou autre. Moi-même, une fois dans la rue, je marchais et j'avais les, je portais des chaussettes et m'appelais lesbienne. Donc les gens là, on parle plus de transidentité, mais aussi les personnes transgenres, ils sont plus exposés à ça. Donc oui, c'est bien, merci, on a la visibilité, que peut-être nous-mêmes, nous avons fait partie de ça et on voulait être visible, qu'il y ait des pages sur Instagram, qu'on fasse des campagnes de sensibilisation sur les termes, sur ça et sur ça. Mais aussi, on paye le prix très cher de tout ce qui vient après. Donc on est là et on a une contre-attaque très transphobée. Et on ne peut pas se protéger. Je ne peux pas porter plainte qu'une personne a fait une vidéo de moi, parce que si je pars, et là il y a l'article 489 qui criminalise l'homosexualité. L'article, c'est toute personne du même sexe ayant une relation sexuelle peut être arrêtée de, je pense, 6 mois à 2 ans avec une amende, je sais pas, de 20 euros jusqu'à 2000, j'ai oublié le montant exact. Et donc, tu n'es pas protégé par l'État, par le gouvernement, tu n'es pas protégé par ta famille, parce que tu ne peux pas dire « Ah, j'étais à l'école et le prof ou la prof m'a mal parlé. » Donc, et ça, je pense que c'est ce qui fait en fait qu'il y a le besoin de la communauté et de la famille choisie. C'est parce qu'aux personnes concernées et aux personnes de la communauté qu'on peut dire qu'on se sent mal, qu'on est victime ou survivant, survivante de telle chose et de telle chose. Et du coup, là, ça crée un... Je ne sais pas, je ne veux pas un peu vous éloigner du sujet, mais ça crée une sorte de distance avec la famille, avec la société, avec... Ce n'est pas une communauté, mais avec les hétéros et avec les personnes... justement qui ne sont pas concernés ou qui ne sont pas vraiment alliés. Donc ça crée un espace, une distance plutôt.
Et maintenant, mélange une musique de Sophia, aussi invitée sur le festival, une artiste marocaine.
Mélange, 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 mélange. Bestie kamlin, mélange, 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 mélange. Comme ça n'existe pas, gamme, kayen, aussi mélange. Mélange, 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 mélange. Possible, démarrer cool shit possible, n'existe pas, gamme, kayen. Mélange, 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 mélange. Démarrer cool shit possible, n'existe pas, gamme, kayen. Tu n'y t'en problème, c'est quoi? Ramartat, c'est clic. مالك شنو هو لي من نهار كتويتنا في دام خمسه كاع ما كاين اكزيستي با مازال عصايه كيتنادفو نكدم اولاند فاك يو تو اون فغي كوغ دي سفوريك شيت دي سي تو مي فاك دات بيتش اوت اوف تشوزن اوت اوف بلود اوت اني كايند اوف توكسيك شيت فيلا كومينوتي نيك تاكليك فيهم خابط مني كلمة بوح تحت ما فوقي في تحت ما سوق لا ود حريتي نفايتي في الليك لا غاش كبيره اش غندير بيها لازم نحمق العباد الكل بيها فاكين رولز فاكين كابس رقولها لباباك لا كان بوليس براه شو سوليد لي شواد مالا من شجاع عاجن ديبان كنرابي على البقاء باش نتاقمو بنادم هنايا راس مالو باق نشوف كاديتي شي ميلونج بعلوقي نحلف مكتب كالك دم كيفاش جاينا شبان هيكيز كبغيتينا ما نعيقوش بك هاد الكار والله ما عطاش فيه لي كاميكازي راه كانو مدروكي براشو داسر لي شواد مالات غنديرو حالة غنفطيوكم هاد الكار والله ما عطاش فيه لي كاميكازي ولا راه مدروكي ليديز ديديز الكل يعيش والماضي راه دامي وكنبانو فانسي لما بغيت تبدلو قانون نفرقو على الوابع فردي فردي واي مشكلة تولي فورس نتكريك في راحتي فولي ترانكيل ابخوش بوك ما فيزيون درولك غنديرو حالة غنفطيوكم عيني تجي ندردس فوريا كيلا فاكين هانكري ما فريدم فاكين رولز فاكين كابس ركول على باباك لك البوليس اكسايتد تسيكو ميتا شاينين هنغري تسيكا توتنا في دام إلا ما بغيتو تبدلو قانون علمو الوابع نكون كفو كاع ما كيهمنيش كي كنجيكم اي كان فيس ديم از لي نريبريزونتي الكويرز الباس اللي نفي الفو بيباني تو تلقاني بكروب موسيقتي باور ميلونج دول ما اوكا او تلقاني بكروب موسيقتي باور ميلونج دول ما اوكا او
trouve qu'au Maroc aussi, il y a eu des tentatives de coming out à la marocaine, un peu en mode coming out caché. Je ne vais pas citer le nom, mais il y a un chanteur marocain qui est plus ou moins connu parce qu'on le voit à la télé. Il est vraiment très visible depuis des années comme acteur et chanteur. Et ces derniers temps, il fait des tentatives de coming out à travers ses chansons. Et je trouve ça très, très courageux d'ailleurs. Je ne sais pas s'il va écouter cette émission, mais bravo à lui.
Ah ben on pourra mettre un petit morceau dans
l'émission. Et il fait ça parce qu'aussi il a une famille qui l'accepte. Je crois que ça l'aide, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ça reste quand même très courageux, je trouve.
Aussi, les enjeux de sécurité, j'ai l'impression que ça a permis aussi d'expérimenter sur... Enfin, en tout cas, j'ai vu dans la programmation et dans les films qu'on a décidé de montrer, on voit que les enjeux de sécurité, ça a amené à des expérimentations créatives hyper fortes et chouettes. Par exemple, je vois dans Bouchra, qui est un film d'animation où c'est des personnages plutôt humains, mais avec des têtes d'animaux. C'est un des exemples de comment tu peux raconter des histoires sans montrer des visages et sans mettre en danger des personnes ou juste en, voilà. Et je pense aussi au collectif SACF, qui est un collectif activiste trans, de personnes trans et queer au Maroc. On a la chance d'avoir Sophie Rally qui est là pendant le festival, qui va présenter tout à l'heure pendant la séance programmation court-métrage deux films du collectif SACF, Evening Dreams et Togian. Et dans ces films, ce qu'on voit, c'est des vidéoclips, donc c'est des personnes queer, trans, souvent cagoulées ou masquées, qui rappent ou font des performances musicales et aussi partagent des témoignages. Et bon, ça donne un côté très punk, subversif, magnifique en vrai. Et du coup, juste pour dire qu'il y a, voilà, il y a des moyens de s'exprimer et d'être créatif en prenant en compte ces contraintes-là. Mmh. Et clairement, on le voit hyper bien avec les activistes au Maroc.
Ouais. Inès, toi, dans ton travail, ça t'aide pour t'exprimer, j'imagine. Mais est-ce que est-ce que depuis que tu fais des photos ou des poèmes, tu ressens plus de possibilités de discuter, mais aussi d'agression?
Pas vraiment, je pense que la casquette un peu d'artiste, ça aide un peu. Mais après, je reste une personne assignée femme, donc j'ai plus de passines que, par exemple, des personnes transgenres ou des personnes dont l'expression ne correspond pas aux normes sociales. Il y a des fois des commentaires et tout, mais pas d'une intensité. Par contre, en fait, le travail, je travaille beaucoup sur le genre, sur ce qu'on ressent, sur la tristesse, sur la mélancolie. Du coup, c'est pas toujours lié à la question. Mais lorsque j'ai travaillé le projet de la santé mentale, qui aujourd'hui est exposé au festival, il y a eu cette discussion avec les participants et les participantes, de quelle manière ces personnes-là, elles veulent être photographiées et quelles sont leurs limites voilà. Et du coup, on a eu des compromis. Certaines personnes ne voulaient pas que leur visage soit visible. D'autres, ils ont accepté des parties que certaines parties de leur corps leur représentent. Donc, pour ça, c'était quand même un défi de faire ça. Donc, oui. Mais vraiment, ça dépend. Mais je pense que il y a quelques années, je faisais plus de séries de photos qui étaient directement de l'artivisme et sur la question cuir. Et il y a quand même une sorte qui est légère, mais quand même qui me dérange, de censure et d'autocensure, en fait. Et donc, je ne peux pas travailler qu'avec moi-même. Pour la communauté, j'ai quand même besoin de travailler avec les gens. Et ce n'est pas toujours facile. Et surtout en cette période... Moi-même, je n'oserais pas proposer à certaines personnes s'ils veulent être affichées ou juste faire partie d'un projet parce qu'il y a le risque et le contexte marocain, je pense, ça change à chaque fois. C'est le même, mais à chaque fois, on a une nouvelle... je ne sais pas comment dire ça, mais des fois, c'est calme et des fois, non. En fait, c'est juste qu'on vous a laissé un peu tranquille et là, vous risquez d'être arrêté.
Et c'est des histoires de présidentielles ou de gouvernance ou de... Ou c'est des mœurs qui changent et qui bougent, c'est...
On ne comprend pas, en fait, la stratégie exactement. Donc, ah ouais. C'est pas vraiment... C'est pas les élections, c'est pas... C'est tout un système je sais pas. Qui est le même en fait, c'est juste qu'à chaque fois il nous montre un visage. Oui, chaque fois il nous présente un visage. Et après en fait le problème aussi, je pense que auquel c'est pas un problème, mais la situation à laquelle je peux faire face en fait, c'est que ok c'est bon, tu as fait un travail sur la communauté queer ou mais où tu vas l'exposer. Donc des fois ça va, tu peux quand même l'avoir, tu peux même le partager sur les réseaux sociaux, mais qui va t'exposer en fait, qui va accepter qu'il y ait une exposition sur ça. Donc on finit, si on a, moi j'ai fait une privée, mais si je pense si jamais j'ai l'occasion, on doit changer le titre, on doit changer même la description. Donc il y a toujours cette censure de leur part, et même s'il y a des galeries privées,
Donc faut switcher de méthode régulièrement. En plus d'être créatif, il faut aussi.
Je pense pas qu'il y a eu des expositions ouvertement, ni de performances, ni ça. Ça peut passer indirectement. Je sais pas. On parle d'un oiseau et je sais pas de la mer. Et là, tu peux trouver des personnes queer qui font une performance. Mais il y a pas un événement comme ça. Il y a une exposition queer. J'ai jamais vu ça. Seulement des personnes.
C'est dangereux de s'exposer publiquement. Moi, certes, j'habite en France depuis 9 ans, mais même moi, je fais pas ça. Parce que je reste marocaine, je suis toujours marocaine et j'ai une famille marocaine. Et Inch'Allah, un jour, je reviens au Maroc. Du coup, moi, je travaille sur la question queer, mais dès que je fais une interview avec ma tête, bah, je vais dire tout sauf queer dans la phrase.
Ouais, tu t'auto-censures en permanence.
Pas vraiment, je fais attention, je réfléchis très très bien à comment je parle de mon projet, parce que c'est facile de dire « Ah bonjour, je parle de la question queer, il y a une histoire d'amour entre deux meufs ». Bah non, en fait, la vidéo, je sais pas c'est qui va la recevoir. Et moi, j'ai eu beaucoup de galères avec ma famille pendant des années, j'ai la flemme à 30 ans de refaire un conflit. Du coup, maintenant, tout le monde sait qui on est, c'est un peu l'image du Maroc aussi. Toute la famille, tout le quartier, tout le monde sait parce qu'on est comme on est. En fait, mais il faut pas qu'on en parle. Tu vois, faut pas qu'on en parle, chacun fait ses trucs dans son coin, en tant qu'artiste, en tant qu'activiste, en tant que machin, mais publiquement, on n'a pas encore l'espace, ni mental, ni, parce qu'en fait, on est déjà dans une précarité, dans plusieurs problèmes, on va pas se rajouter le coming out, le machin. Et malheureusement, on est dans une économie d'énergie, de ça, quoi. Tu vois, genre, on fait des trucs, mais on voit, c'est très rare, c'est presque impossible. Tu trouves quelqu'un ouvertement comme ça, ouais. J'aimerais bien que ça va arriver, mais on n'en est pas encore là parce que on doit aussi se protéger autant qu'individu et essayer de survivre et pas péter des câbles.
Visible, évidemment, le contexte il est hyper différent. Enfin, il y a des personnes qui sont agressées dans la rue, qui se font virer de chez elles, qui trouvent pas de travail, notamment les personnes trans, les personnes racisées, les personnes précaires, personnes consommatrices de drogue. Personnes qui font du travail du sexe. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a eu Gabriel Attal qui était là en mode bonjour, je suis gay, que ça y est, c'est la teuf. Enfin, en fait, vraiment, moi, des potes qui ont des boulots dans le soin, dans l'éducation et qui sont pas out au travail, mais j'en connais à l'appel, qui utilisent des différents noms pour pouvoir continuer à maintenir leur poste. Donc, je pense qu'effectivement, les contextes ils sont hyper différents, mais faut pas non plus rentrer dans ce truc de genre tout est bien en Occident pour les queers et tout, parce que c'est pas vrai. On a besoin de continuer à lutter pour nos droits et on a besoin de continuer à se protéger, à survivre. Et alors, encore plus aussi si on parle des l'exposition en ligne. Enfin, qui c'est qui a déjà fait des posts LGBTQIA+ ou sur les questions queer en ligne sans se faire troller, suivre, annuler son compte, comment on dit, bannir, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, juste pour dire que c'est la lutte, elle est continue. Et faut pas non plus diaboliser ce qui se passe dans la Méditerranée. Parce que moi, j'ai envie de dire aussi qu'il peut y avoir un cliché raciste aussi en lien avec genre l'islam, les personnes arabes et tout, qui sont homophobes, qui sont aussi vachement relayés par des personnes racistes en France, aussi par les féministes blanches, ça qui vont dire en mode eux c'est des personnes qui battent leurs femmes, battent les LGBT et tout. Pareil, c'était hyper présent sur les questions entre Israël et Palestine, de dire Israël protège les Palestiniens. Pas du tout. Israël détruit les Palestiniens et protège les personnes LGBTQIA+. Tu peux pas être LGBT mais pro-Palestine parce que c'est contradictoire. Et en fait, tout ça, c'est des conneries. C'est du pinkwashing. Et il faut absolument qu'on soit clair sur le fait que c'est un agenda raciste, colonial, impérialiste qui se sert de nous et de la visibilité LGBTQIA+ pour avancer son agenda.
complètement. Et moi, si je peux me permettre, je vais mettre juste la lumière un peu sur la situation des personnes demandeuses d'asile LGBT en France. Moi, j'ai demandé l'asile autant que personne queer en 2017, et encore ça va. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de refus, énormément de refus, énormément d'attentes de 2-3 ans. Et ce qui met en précarité des gens déjà multi-traumatisés, qui ont traversé la mer, des fois plusieurs pays. Et sur des questions tout bêtes de est-ce que tu as bien répondu à l'entretien ou pas, est-ce que tu connais les termes occidentaux ou pas, est-ce que tu sais bien exotiser ton histoire ou pas. Et moi personnellement, ça me met beaucoup en colère et je suis triste pour ces gens parce que c'est mon parcours, et de voir qu'il y a des gens qui buguent dans ces parcours-là pendant 3-4 ans avec plusieurs refus, la précarité qui va avec, parce qu'en France, on n'est pas dans un pays qui accueille en bras ouverts les personnes réfugiées LGBT. Ils se retrouvent des fois dehors, ils se retrouvent à être hébergés dans des squats, chez des gens qu'ils n'aiment pas, où ils ne sont pas vraiment en sécurité. Et j'invite vraiment les gens qui écoutent ces radios à se renseigner sur les associations de leur ville pour les personnes demandeuses d'asile LGBT, parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Merci.
Et à leur donner de l'argent aussi. Il faut leur donner de l'argent.
Surtout.
Ouais, surtout,
s'il vous plaît.
Rendez l'argent.
Arrêtez les beaux discours et arrêtez les paroles coloniales, mais donnez-nous de la thune.
C'est tellement long le parcours de demande d'asile que les gens, ils ont besoin vraiment de tout. Vraiment de tout. Du coup, tant d'argent que vous pouvez donner à ces associations, de soutien administratif, parce que c'est très dur de faire la demande d'asile et de suivre tout le parcours. Allez-y, s'il vous plaît, parce que ces gens-là, ils sont fatigués, épuisés, et c'est dur, quoi.
Et du coup, peut-être pour dire dans le Finistère, big up à la casquette solidaire à Edouard Denet, qui fait du soutien aux personnes exilées, y compris LGBTQIA+, et aux Détras Queer à Brest, qui du coup font ce soutien juridique, matériel, administratif des personnes exilées LGBTQIA+, qui arrivent jusqu'à chez nous.
Queer Revenge, toujours une musique de Sophia.
لكن انت فايك لاش الفايم شنا رأي فتحوك باباراتسي تايكير اكتاب مديما وحني هاك ماشي عد باجل لاشفت الفوبي بشي صواري نكسب لاجر عاد نمشي في حالي تجيب لي اقوى دموحامي نريبريزونتي الكويرات الباسلين اللي بيس زيدا في السيبي متوقعنيش نرفع عليك شابو نقلب علي قامت لكاني دم سخون في العمر مع صغير لقاني بوجي ان شاء الله ريفنج على دوقي ايناف دي سفوري والإيلان في بوقي مع البال جبيب لك مروكي على بالي بحريتي تقوى دم فوق اكس شحال من بوليسي سطان دراسك نو وان فايك ما حضر اي كنجير بسرفايف مود وشوفا او سيغيكم بين الزبيز راسي وجول ريفنج ما جاز كل تشينج درج الغين تقول الشعر نقول عليك بعض هاتجي كامل راس طاني الفينوم تبعني في وسط منداري حروب هاتجي اللي كاين انورمال كوريكت او غارس سرفايف مود وشوفا او سيغيكم بين الزبيز راسي وجول مش او اسبخي ولي كانز حت فاش قاعد تحقر كدارس كتري بغي بسوء الدن سوء الدن اول مي اكس كمان نورمال في المسكن سحب لهم بلاندي بورتل في مسكن سحب لهم عندي بورد تشرق أول مي أكس كمان نور في مسكن سحب لهم عندي بورد سحب لهم راني خورد كوميطة هنا يرى أقوقو في المغرب نيت أنت بوردو كوميطة جديدة كان فاردو ريسبي وفي ريفنج كان تفاردو بالباك كامل كان طالبو في حلمو دمانيك شكل بانيك على التوكسيسيتي كان دافلو على ود حريتي نفايتي اللي كان هدنا تاريخ والحاضر الحاضر كتشوفو الماضي ردامي دي ماريدي أوكاو كنت بالك مبنت كتبا لي نكيرة مرارة كان نكون صوفش مرارة نبغي نموت بالشيك كان دي راوي دولد كونفيدنس نيبلون بينا حيد من قدامي البوليس ستاني العباد ناطريدي تاكسي بجوجو ديوان مالي البوليس ستاني بشحال هادي طاي طاي كان فيزي الباك البوليس ستاني البوليس ستاني نيبلون بينا حيد من قدامي
Je voulais lire un texte de Bassem Benbrahim, qui est réalisateur et qui a proposé deux films dans la programmation cette année, Maghreb's Hope et From Female
for male and female. Malheureusement, il n'a pas pu venir suite à un refus de visa et de prise en charge. Donc, il n'a pas pu venir jusqu'à Douarnenez, mais donc il nous a envoyé un texte qu'on pouvait lire en début de projection. Et je l'ai trouvé assez beau et j'avais envie de vous le partager aujourd'hui sur Radio Transistor. Je suis très heureux et honoré que Maghreb's Hope et From Male and Female soient programmés dans la même édition du Festival de cinéma de Douarnenez. C'est une vraie joie de voir ces deux films réunis dans cette programmation. Malgré cette joie, je suis déçue de ne pas pouvoir être présent cette année. Je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir un rendez-vous pour mon visa à temps et je n'ai donc pas pu me rendre à Douarnenez, notamment pour la première française de From Male and Female. C'est assez particulier pour moi puisque c'est déjà le 7e festival du film et que je n'ai pas encore pu vivre une projection avec les spectateurs en personne. Peut-être que cela arrivera pour une raison que je ne connais pas encore. Je suis particulièrement touchée par cette édition spéciale autour des Marocs, par la présence de mes deux films dans la section queer et aussi par le fait d'être programmée aux côtés du film de mon ami Taïn, Amour, Amour, Liberté. Pour moi, une projection queer a aussi quelque chose de particulier. Ces films existent et peuvent rencontrer un public grâce à des personnes queer, des militants et des alliés qui croient que nos histoires ont quelque chose à transmettre et peuvent, à leur échelle, faire une différence. J'espère que mes films pourront transmettre quelque chose à leur tour, même une petite émotion, un sentiment d'amour, de reconnaissance ou simplement le sentiment de ne pas être seul. Même si je ne suis pas physiquement là, je suis très heureux de savoir que mes films seront dans cette salle et je serai vraiment ravie de recevoir vos retours, vos impressions et vos critiques après les projections. Emoji cœur rouge.
Est-ce que vous avez des envies pour les personnes qui pourraient éventuellement vous écouter au Maroc de leur passer des messages, des dédicaces comme vous avez fait tout à l'heure ou...
J'ai beaucoup de prénoms en tête, je sais pas, à tous mes amis tout court.
Une petite dédicace musicale à qui se reconnaîtra.
Eh bien voyons Milord, souriez-moi Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà c'est ça, allez riez Milord, allez chanter Milord. Ta-da.
J'ai une pensée hyper forte pour Eredad qui était avec nous dans tout le travail de l'année dans la commission LGBTQIA+, qui est basée au Maroc et qui malheureusement à cause des restrictions budgétaires du festival, son trajet et son visa n'a pas pu être pris en charge et du coup voilà, on pense à toi et merci pour tout ce travail et j'espère qu'on va se réussir à être ensemble au même endroit bientôt.
Bisous Sausanne, on t'aime
beaucoup.
Ok. Ben, j'ai envie de dire merci pour ce plateau qui n'était pas du tout préparé, je suis d'accord.
Merci.
Merci à vous. Bonne suite de festival. Baslam.
5, 4, 3, 2, 1.
Extramuros.
Transistor sort de ses murs.
Transistor sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Radio 101.1. Du 15 au 22 août, le festival de Douarnenez tient sa 48e édition consacrée au peuple du Maroc. Depuis sa création en 1918, ce festival s'engage dans des actions culturelles autour des enjeux de peuple, d'identité et de genre. Parmi les 140 films présentés au cours du festival, nous allons parler d'un documentaire intitulé Mothership, réalisé par Muriel Cravat. Ce film a été tourné à bord du bateau humanitaire Ocean Viking, qui appartient à l'ONG SOS Méditerranée. Le documentaire suit le travail de sauvetage en Méditerranée, un enjeu humanitaire majeur en Europe. Pour nous en parler et répondre à nos questions, nous sommes en ligne avec Muriel Cravat, la réalisatrice du film. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots de quoi parle le film ?
Alors oui, parce que comme vous l'avez dit, donc c'est un film que j'ai tourné à bord du navire humanitaire Ocean Viking qui porte secours aux personnes en détresse en Méditerranée centrale. Ce sont des exilés donc qui fuient la Libye à bord d'embarcations précaires et qui sont secourus en mer. J'en suis dans le film, donc j'ai embarqué 2 mois à bord du bateau et je suis le travail des humanitaires, mais aussi surtout c'est le biais pour entrer, pour aller à la rencontre des personnes exilées et particulièrement des femmes et des enfants. J'ai passé beaucoup de temps sur le bateau dans un lieu qui s'appelle le Women's Shelter, qui est réservé exclusivement aux femmes et aux enfants à bord. Aucun homme ne peut entrer dans cet espace. Et donc, je dirais que c'est le cœur du film. Voilà, c'est mon intention était vraiment de parler des femmes en exil par le biais de ce documentaire.
Pourquoi avoir présenté ce film au festival de Douarnenez en particulier et pas à un autre film ?
Ça c'est le dernier film que j'ai fait, c'est le hasard des calendriers et le film a beaucoup tourné, en fait il est terminé depuis maintenant 2 ans, il a beaucoup tourné en festival et là je crois qu'il est présenté dans le cadre d'un partenariat aussi avec l'ONG SOS Méditerranée.
J'ai pu constater aussi, je reviens juste sur vos propos au départ. Vous avez expliqué que vous avez beaucoup filmé la partie des femmes qui est réservée aux femmes. Et donc, vous avez eu cette chance-là. Et donc, je voulais juste revenir sur cette partie. Au cours de votre temps sur le bateau, avez-vous pris conscience des raisons spécifiques pour lesquelles les exilés quittent leur pays ?
Alors moi, ce n'est pas exactement le propos de mon film. Les raisons de départ, elles sont extrêmement multiples, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, et elles sont souvent croisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison de départ. Il y a souvent des enjeux multiples qui sont de l'ordre de violence, de précarité, de difficultés professionnelles, financières, guerre, éventuellement pour les femmes, risque de mutilation, mariage forcé. Donc, c'est les raisons. Elles sont multiples. Il ne faut pas chercher une seule raison. Chacune a un parcours migratoire singulier et des raisons vitales en fait de partir. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que personne ne quitte son pays parce que c'est peut-être plus sympa ailleurs. Non, en fait, ce sont vraiment des raisons extrêmement essentielles et vitales qui poussent les personnes à quitter leur pays. Quand j'ai demandé à plusieurs exilés quel était le plus beau pays du monde, la plupart me répondent celui où je suis née. Donc, on ne part pas de gaieté de cœur, on part par nécessité impérieuse.
Dans le film, on apprend que les exilés évitent d'être ramenés en Libye. Pourquoi c'est contraire au droit maritime et à la Convention de Genève ? Pouvez-vous nous expliquer brièvement ?
Oui, c'est contraire pour 2 raisons. Donc, des personnes qui fuient un pays ne peuvent, donc, qui fuient, et là en l'occurrence, elle fuit par la mer. Donc il y a 2 législations qui entrent en vigueur. Il y a d'abord le droit maritime, et le droit maritime international précise que lorsqu'on sauve des personnes en détresse en mer, le sauvetage ne prend fin que lorsque ces personnes sont ramenées dans ce qu'on appelle un port sûr. Et un port sûr, c'est un port dans lequel leurs droits fondamentaux sont respectés. Si on ramène les personnes en Libye, leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés parce que la Libye n'est pas un pays sûr et donc ne présente pas de port sûr. Donc c'est la première raison pour laquelle c'est contraire au droit, maritime de ramener les personnes en Libye. La deuxième raison pour laquelle c'est contraire au droit, c'est que la Convention de Genève précise qu'on ne peut pas ramener des personnes d'un pays qu'elles fuient. Or, quand elles prennent la mer, elles fuient la Libye.
37 200 personnes ont été secourues entre 2016 et 2022 par Ocean Viking. Comment expliquez-vous ces chiffres massifs ?
Alors, il faut voir que ce ne sont pas des chiffres massifs relativement à l'immigration à échelle du monde, à échelle des échanges. Donc, il faut, faut arrêter d'avoir peur d'une crise migratoire, d'une vague, d'un tsunami. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas de tsunami. Par contre, il y a réellement une crise de l'accueil en Europe, ça c'est clair. Et les chiffres sont expliqués, les chiffres d'augmentation de l'immigration par la mer sont expliqués par la baisse des possibilités d'immigrer par les voies légales. Et voilà, mais de tout temps, il y a eu des mouvements migratoires. Et ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est que la plupart des mouvements de migration ont lieu d'un pays à son pays voisin, et que les deux tiers des mouvements migratoires se produisent d'un pays du sud à un pays du sud, ou d'un pays du nord à un pays du nord. Donc deux tiers des mouvements migratoires, c'est d'un pays du sud à un pays du sud, ou d'un pays du nord à un pays du nord. Donc ça met un peu ça relativise un peu cette espèce de peur, de spectre qu'on nous agite de vagues ou de tsunamis, qui est juste un chiffon rouge qu'on agite pour faire peur aux gens et pour éviter de parler de ce qui se passe réellement.
Le documentaire aborde aussi les contraintes que peuvent rencontrer les bateaux de sauvetage, notamment le bateau Ocean Viking. Pourquoi est-il essentiel de montrer cette réalité dans votre film ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une embarcation qui est en détresse en Méditerranée, avec des exilés à bord, donc qui sont dans une situation de grande, grande détresse, et qu'elles émettent un SOS, leur SOS est transmis au bateau des ONG, mais aussi au bateau marchand qui patrouille par là, au bateau de loisirs, et aux autorités maritimes compétentes. Donc en gros, tous les acteurs qui sont dans cette zone géographique sont au courant, y compris les Libyens, parce que on leur a accordé un crédit de capacité de recherche et sauvetage. C'est encore, je dirais, ça fait partie de la politique européenne d'avoir créé un peu de toutes pièces cette compétence-là qui ne relève d'aucune réalité sur le terrain. Mais donc les Libyens sont aussi dans la boucle. Et en fait, du coup, il y a parfois, quand il y a un patrouilleur libyen qui est sur zone et un bateau d'une ONG, une sorte de course-poursuite entre les Libyens et le bateau humanitaire pour savoir lequel va récupérer les personnes en détresse. Et encore une fois, si ce sont les Libyens, ce n'est pas le fait que les Libyens les prennent à bord qui est problématique. Ce qui est problématique, c'est que souvent, cette interception est faite avec une grande violence, et donc il arrive que des personnes meurent lors de l'interception. Donc quand les personnes passent de l'embarcation en détresse au bateau des Libyens, ça c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est que les Libyens les ramènent en Libye. Et donc ça, c'est contraire au droit, donc comme on a dit tout à l'heure, au droit maritime international et à la Convention de Genève. Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin et se poser la question, pourquoi les Libyens font ça ? Les Libyens font ça parce qu'ils reçoivent de l'argent, des financements, des moyens. Il y a un logistique opérationnel, des formations de la part de l'Union européenne qui leur demande de procéder à ces interceptions sous couvert de lutter contre les réseaux de passeurs.
Donc, ma question qui suit, est-ce que ce film a pour vocation de sensibiliser les spectateurs à cette crise humanitaire ?
Le film a pour vocation de sensibiliser les spectateurs et les spectatrices à un certain nombre de faits qui se produisent tout près de chez nous, dans la Méditerranée. Nous, on va passer nos vacances en bord de mer. Et donc, oui, à faire connaître ce qui se passe, c'est l'objet de ce film. Mais je dirais que voilà, ça résonne un tout petit peu plus loin. C'est opposer un principe de réalité à des fictions qui sont véhiculées par beaucoup de médias et de politiques. C'est aussi vouloir montrer que le droit est du côté des ONG et que l'illégalité est par est initié par l'Union européenne avec ce qu'elle demande de faire aux gardes-côtes libyens, et c'est aussi interrogé sur le monde dans lequel on veut vivre, parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des garde-fous qui ont été mis en place pour que plus jamais la barbarie n'advienne, pour qu'on vive dans un monde plus humain, plus solidaire. Et en fait, ce qui se passe en Méditerranée, c'est symbolique du fait qu'on est en train de d'éroder ces principes, ces garde-fous, et d'ériger une Europe forteresse, repliée sur elle-même, et pas solidaire et pas humaine.
Pensez-vous que ce documentaire pourrait donc influencer les politiques migratoires européennes, et de quelle manière alors ?
Je suis pas très très optimiste. Je pense que mon documentaire est une toute petite pierre à l'édifice de la sensibilisation, et que chacun, chacune, nous avons un devoir, du coup, peut-être les spectateurs, les spectatrices, après avoir vu le film, un devoir de se renseigner plus, si le film les a un peu sensibilisés, le devoir d'en parler, le devoir d'éventuellement s'investir. Dans quelques mois, en France, il va y avoir les élections présidentielles. Voilà, encore une fois, la question qui se pose, c'est dans quel monde on veut vivre ? Et allons plus loin que ce que ce qu'on nous assène tous les jours sur les chaînes en flux continu, qui sont détenues par quelques personnalités, par quelques hommes richissimes qui veulent imposer un modèle de pensée unique et fascisant.
Et enfin, quelle est la chose la plus importante à retenir de Mothership selon vous ?
Je pense que la chose la plus importante à retenir, peut-être, c'est que ces exilés, toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces enfants qui arrivent, en fait, ça pourrait être nous. Eux, c'est nous. Et à partir du moment où on se met à raisonner comme ça, on peut plus éviter, en fait, de penser en termes de solidarité et d'accueil. Et voilà, une autre chose à retenir, c'est que des mouvements migratoires, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et se replier derrière une forteresse n'est pas une solution. L'Europe est un continent vieillissant, de plus, donc c'est encore moins une solution. Même d'un point de vue pragmatique, c'est déraisonnable de s'enfermer comme on le fait.
Merci Muriel Cravat. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice du film Mothership. C'était Roujda Sani au micro de Radio U.
Merci beaucoup.